16h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h et je suis à nouveau accompagné de ma camarade Omblyne qui s'en revient de vacances en pleine forme.
Bonjour.
Comment
Olivier,
allez-vous
bonjour
ma chère?
Ça va bien, merci.
Pendant cette heure, nous parlons de vous, de ce que vous vivez au quotidien, de ce qui vous inspire ou qui vous révolte. Votre vécu nous intéresse parce qu'ils n'ont pas répondu à une sollicitation, parce qu'ils n'avaient pas de cigarette. Pour un coup de volant ou un mot de trop, ils ont été agressés pour rien. En 2018, on estimait à près d'un millier le nombre d'agressions non crapuleuses par jour. Alors ces agressions non crapuleuses, ce sont celles qui n'ont pas pour but d'un vol et puis celles pour des motifs futiles. Et c'est 6% de plus qu'en 2017. Violences verbales, bousculades, coups de crachat. Parfois, l'issue est fatale. On pense à Kevin, on pense à Sofiane, on pense à Dorian ou à Adrien, morts lynchés, victimes de violences totalement gratuites. Pourquoi tant de violences? Notre société est-elle plus sauvage qu'avant? À quoi est-ce lié tout ça? Violence gratuite en hausse, pourquoi tant de haine? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires, parce que nous sommes tous concernés par ce phénomène. Nous sommes là pour vous écouter.
Et vous n'hésitez pas à composer le 39-21, le standard d'Europe 1, 39-21, 50 centimes la minute. On vous lit sur Twitter, hashtag Europe 1, ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Nicolas sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Nicolas.
Bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors, j'ai 29 ans. Là, je vous appelle de la Laponie suédoise, mais je suis du Finistère, en Bretagne.
D'accord. Qu'est-ce que vous faites en Laponie?
Je travaille.
D'accord. C'est génial. Vous faites quoi en Laponie?
C'est super. Alors, je travaille pour une société qui organise des stages de pilotage sur un lac gelé.
D'accord. Génial. En novembre 2017, on va revenir à des choses moins lumineuses, Nicolas, puisque vous étiez tranquillement en train de boire un verre avec des amis. Et puis, il y a eu un déferlement de violence. Racontez-moi ce qui s'est passé.
C'est ça. Un samedi soir, en sortant d'un bar, je raccompagnais des amis à leur voiture pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Je me suis fait aborder, on était un groupe de quatre, je me suis fait aborder par deux personnes qui m'ont demandé une cigarette. Étant non-fumeur, je n'ai pas pu satisfaire leur demande. Après, ils se sont adressés à une amie à moi en demandant un briquet, d'une façon qui m'a un petit peu étonné. Donc, je suis resté regarder cette personne-là, un petit peu surpris. Et puis, donc, ça ne lui a pas plu. Il me proposait de mettre un coup de poing. Donc, je suis resté encore, vraiment ébahi. Et puis, il a poussé ma collègue et puis m'a mis un bon coup de poing dans le visage. Et puis les gendarmes, on a contacté les gendarmes sont arrivés.
Alors, on va voir ensuite que vos amis ont appelé la police, mais quel était le profil de ces deux personnes en fait? Sont des jeunes comme vous?
Ouais, je les mettais un petit peu plus jeunes que moi même.
Ouais.
Bon, vous voyez qu'ils voulaient en découdre dans leur façon de parler.
Vous n'avez pas en tout cas senti venir cette violence, hein. Vous étiez bien loin de penser que ça allait dégénérer comme ça.
Je m'y attendais pas du tout, mais vraiment pas du tout.
Ça part donc d'une demande de feu, hein, si j'ai bien compris, demande de cigarette et ensuite d'un briquet. Quelle blessure vous avez sur le moment?
Sur le moment, pour moi, rien.
Oui.
Et par la suite, 3 fractures de la mâchoire.
D'accord, donc ça a tapé très fort ce soir-là.
Oui, ça a endommagé tout le nerf qu'il y a dans la mâchoire. Voilà pourquoi je ne sentais rien sur le coup.
Ouais. Moralement, comment vous vous sentiez les jours qui ont suivi cette agression?
Moralement, très 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 compliqué.
C'est-à-dire
6 semaines d'immobilisation de la mâchoire sans pouvoir l'ouvrir.
Ouais. Donc manger avec une paille.
Voilà, c'est ça. Mmh. 3 mois de boulot que j'ai dû annuler étant indépendant en chauffeur poids lourd dans le milieu de la course automobile. J'avais un sacré programme d'effectuer. Je partais 2 jours plus tard en Italie livrer des voitures qui partaient en course pour Abu Dhabi.
Ouais.
Tout est tombé à l'eau. Moi, c'était ma première année. Le RSI me donnait aucune indemnité parce que je n'avais pas cotisé une année complète pour eux. Donc, c'était très, très dur.
Aujourd'hui, vous subissez encore physiquement et moralement les séquelles de cette agression. De quelle manière vous les subissez
Les histoires, c'est j'ai encore rendez-vous avec des experts, des stomatologues, le tribunal. Là, je vais avoir une autre audition à mon retour de Laponie. Tout ça, ça continue. C'est interminable. Et puis lui, pour le moment, est un petit peu relaxé, quoi. Donc
lui, en fait, vous parlez de votre agresseur, hein.
Oui, c'est ça.
Le motif, si l'on peut dire, de toute cette violence vous a interrogé. Est-ce que ces hommes vous ont semblé finalement dès le début avoir un but bien précis ou est-ce que vous pensez aujourd'hui, lorsque vous pensez à ce qui s'est passé ce soir-là, c'est le refus de donner une cigarette qu'ils interprètent? Comment vous le remémorez ce moment?
Alors, sur le coup, je ne sais pas s'ils voulaient réellement en découdre. Après coup, justement, on a su qu'ils avaient été déjà dans un bar juste auparavant et qu'ils voulaient taper sur des clients. Donc, on se dit qu'il y avait quelque chose d'anticipé quand même. Donc, mais à ce moment-là, non, pour moi, c'était juste une demande de cigarette, quoi.
Alors, je vais vous raconter très brièvement quelque chose. J'ai subi ce truc-là un soir en descendant dans une épicerie, acheter une bouteille d'eau. Et en fait, sont rentrés deux gamins de 16 ans, mes deux gamins qui étaient deux beaux bébés, hein, qui devaient avoir 16-17 ans et qui étaient habités visiblement par les mêmes motivations d'en découdre. Bon... ma chance a été finalement qu'il voulait en découdre avec le propriétaire de cette épicerie. Je voulais en revenir à la jeunesse de ces agresseurs. Ils ont quel âge? Vous estimez qu'ils ont quel âge au moment de cette agression?
Je les pensais plus jeunes que moi et ils sont de ma tranche d'âge. J'ai 29 ans aujourd'hui. C'est de ma tranche d'âge et bien connu visiblement là des services de police, mais
donc,
dans une
donc
petite
des adultes,
commune comme
des adultes.
Oui, c'est ça. Oui.
D'accord. Vous restez en ligne avec nous, Nicolas. On va continuer à parler de votre histoire et nous allons voir l'impact que cette agression a encore aujourd'hui sur vous.
Europe 1. On parle des violences gratuites. Là, vous êtes arrivé, comme à Nicolas. L'un de vos proches en a été victime. Vous nous racontez au 39-21. Vous nous envoyez aussi vos messages, vos histoires sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Quand la brutalité fait partie de notre quotidien, insulter, agresser, voire pire, pour une place de parking, pour trop de bruit, pour un regard mal interprété, nous parlons avec vous de la violence gratuite. Vous êtes avec Olivier Delacroix, 39-21, pour nous appeler.
Et nous sommes toujours en ligne avec Nicolas, qui un soir de 2017, pour le refus d'une cigarette et puis ensuite le refus d'un briquet de la part d'une de ses amies, s'est retrouvé avec trois fractures de la mâchoire et un impact certain sur... votre vie immédiate, hein, puisque vous avez été obligé d'annuler une mission que vous aviez, si j'ai bien compris, vous deviez véhiculer des voitures de course en Italie. Cette agression, elle a eu une répercussion au niveau de la loi. Est-ce que vous avez rapidement porté plainte contre X après cette agression? Est-ce que, parce que vous ne saviez pas qui c'était, il me semble que vous avez recroisé cet homme après, mais au départ... c'était un parfait inconnu.
C'est tout à fait ça. Je ne connaissais pas cette personne-là. À ma sortie d'hôpital, donc j'ai eu trois jours à l'hôpital parce qu'ils m'ont posé trois plaques en titane et 12 vis à garder maintenant à vie. En sortant de l'hôpital, j'ai donc été porté plainte contre X, parce que je ne savais pas qui était l'auteur des faits. Oui. Et j'avais ma conscience qu'il fallait que je le retrouve. Je retrouve cet individu-là et le soir, en traînant dans la ville en voiture, je suis retombé sur cette personne qui avait le même jogging, la même veste. Oui. Et ça a tilté comme ça.
Quelle ville était-ce en fait? C'était une petite ville?
Quimperlé.
Ah oui, Quimperlé. Oui, donc Quimperlé, c'est vrai que j'y suis allé une fois. Quimperlé, c'est vrai que c'est tout petit, hein, et tout dépend de l'époque. Mais si on est en basse saison, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de monde, hein, qui traîne. Donc on peut vite se recroiser les uns les autres à Quimperlé.
C'est C'est ça.
Vous aviez déjà été... d'abord, où en est le procès aujourd'hui, puisque cet homme a été retrouvé par la police? Où est-ce que vous en êtes d'un point de vue justice aujourd'hui avec lui?
Alors, d'un point de vue justice, il y a une première audience. Là, mon retour maintenant, je vais avoir rendez-vous avec un stomatologue parce que visiblement, il y aurait une autre opération à subir. J'ai une luxation du disque droit, donc j'ai les dents de sagesse. Visiblement, il y aura l'ablation à faire lorsque cela n'était pas prévu. Mais ma mâchoire a un autre positionnement aujourd'hui. Donc tout ça, en fait, ça crée des douleurs musculaire et donc risque de luxation, de blocage de mâchoire en bâillant, tout simplement. Donc il y a toujours cette...
Est-ce que vous avez été dédommagé déjà? Parce que je sais qu'il y a une caisse qui tout de suite...
C'est les fonds de garantie, oui, mais...
C'est la CIVI, c'est ça?
C'est ça, c'est ça. Pour le moment, j'ai rien eu. Bon, il y a des frais, c'est à moi d'avancer, les honoraires d'avocat, j'ai ma protection juridique, mais il y a une partie qui n'est pas prise en compte, donc c'est assez compliqué d'avancer tout ça sans qu'il y ait d'argent qui revienne, j'ai envie de dire.
Vous avez été confronté à cet homme lors du procès qu'il y a eu?
Oui, il était, j'étais en partie civile, donc il a donné sa version des faits qui était... Donc il n'avait pas d'avocat déjà et il donnait une version encore différente de celle qu'il avait donnée à la gendarmerie. Donc monsieur le procureur et la présidente avaient le procès verbal sous les yeux. Donc les questions ont été posées et ses réponses très, très douleuses, il s'en mêlait les pinceaux.
Mais son explication en fait, parce que je vais vous demander comment vous expliquer une telle violence pour rien et l'analyse que vous en avez fait, quelle est sa réponse devant la justice?
Alors, lui, sa version, c'est qu'il est tombé sur un groupe de 4 jeunes très fortement alcoolisés qui faisaient énormément de bruit dans la rue et que je serais allé d'une façon très agressive à son encontre.
Lui demander une cigarette?
Non, d'une façon juste très, très, très agressive à son encontre et lui, pour se défendre, m'a mis un coup de poing.
D'accord.
Voilà. Lui, sa version.
Vous? Votre analyse aujourd'hui d'une telle violence, qui est une violence totalement gratuite. Vous avez eu le temps de réfléchir, peut-être d'en apprendre un peu plus sur cet homme. Qu'est-ce que vous m'en diriez, votre avis sur ce qu'il a fait ce soir-là? C'est quoi?
Bonne question. Ça, sincèrement, je pense qu'il n'y a que lui qui puisse répondre à ça. Je ne sais même pas ce qu'il a pris, s'il avait besoin de se détendre ou pas, je ne sais pas. Après, chacun a sa façon de voir les choses, mais non, je n'ai même pas de réponse à ça, en fait. Je ne sais pas ce que ça lui a apporté.
Vous savez que vous n'êtes pas un cas isolé. Le coup de la cigarette, le refus de la cigarette ou le refus du feu, aujourd'hui, donne l'occasion souvent à des agressions d'une violence aussi inouïe. Qu'est-ce que ça vous inspire en fait d'avoir été agressé pour un truc comme ça?
Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est une bonne question.
Si ça vous pose problème en fait, comment aujourd'hui ça impacte votre vie? Parce que on est tous sollicités aujourd'hui dans la rue pour je sais pas, quelqu'un qui va nous demander son chemin, demander du feu, demander une pièce même, parce que aujourd'hui j'étais à Marseille hier, j'arrive ce matin, je fais pas 20 mètres que 3 personnes me demandent déjà de les aider, je veux dire, si entre nous, dès qu'on se demande des trucs, on commence à prendre des droites et finir avec trois fractures de la mâchoire, il y a un truc qui ne va pas. Donc vous, comment aujourd'hui vous vivez ça? Comment ça vous inspire quoi de notre société?
Alors déjà, d'une première part, pour moi, ça me fait relativiser parce que même c'est un coup de poing. Je sais qu'il y a bien plus grave que ça. Aujourd'hui, ce que j'en pense, c'est que je continuerai à marcher la tête haute dans ma ville, j'ai envie de dire pour ça. Je baisserai pas les yeux. Ça a été quelque chose qui s'est passé. Il n'y a pas eu de motif qu'il le fasse. Maintenant, on va aller au bout des choses. On va voir ce qui va se passer. Ça devient déplorable en fait qu'on puisse quelque chose de si gratuit puisse arriver. Moi, parmi tant d'autres.
Vous avez peur aujourd'hui que ça puisse recommencer? Est-ce que vous êtes sur vos gardes lorsque vous sortez maintenant avec des copains, que vous allez boire un verre comme ça, et est-ce que vous êtes sur vos gardes?
Non. Sincèrement, non. Maintenant, je fais quand même attention. Je vois quand il y a des petits échauffourées. Sincèrement, je veux pas repasser par où je suis passé. Ça a été assez compliqué moralement. Avec tout ça, les 67 jours d'ITT, tout ce qui s'est passé, non, je préfère.
Vous tenir à distance.
C'est sûr.
Ouais. Merci infiniment, Nicolas, pour votre témoignage. Et je vous souhaite bon établissement. Et surtout, bien évidemment, de garder la tête haute, mais de rester sur vos gardes, comme vous nous le disiez. Pour mieux comprendre cette montée de la violence, nous allons dans quelques instants accueillir Aurélien Langlade. Il est chef adjoint de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales.
Et Taco nous écrit sur Twitter, hashtag Europe 1, la violence commence par les mots. Il y a 8 jours, j'ai simplement demandé à mon voisin de baisser sa musique. Ses enfants, 20 ans environ, m'ont insulté immédiatement, menacé pendant 4 minutes. Le père cautionnait et riait. Gros problème d'éducation au 21e siècle.
Europe 1.
On parle de la violence gratuite, les agressions verbales, physiques, pour des mots futiles, pour trop de bruit. Vous y avez été confronté, venez en discuter avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Vous nous appelez 3921. Entre 15h et 16h, vous êtes avec Olivier Delacroix, le 3921, pour partager avec nous votre histoire. Vous avez été victime de violences gratuites au volant, dans la rue, des insultes. Écrivez-nous et réagissez également via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Aurélien Langlade, chef adjoint de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi.
Bonjour à tous.
Bonjour. Nous le disions en préambule, en 2018, on estimait à près d'un millier le nombre d'agressions non crapuleuses par jour. Que représente ce chiffre exactement ? Qu'est-ce qu'il traduit à votre avis ?
Alors, je vais essayer, en tant qu'adjoint à l'ONDRP, Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, d'avoir une perspective un petit peu chiffrée, puis de remettre ça dans un contexte un petit peu plus global et essayer de faire parler un petit peu les chiffres. Nous, c'est vraiment notre mission à l'Observatoire, un observatoire indépendant, qui consiste à collecter des informations chiffrées, les analyser et les diffuser. Donc, concernant ces violences non crapuleuses, comme elles sont appelées, on constate effectivement une augmentation de près de 220% des violences non crapuleuses entre 1996 et 2018. Mais il est important de savoir et de noter que cette augmentation, il s'agit d'une augmentation des violences déclarées aux autorités.
Oui.
C'est une augmentation du nombre de plaintes. Et donc, effectivement, il y a une augmentation même sur les 5 dernières années de plus de 20% de ce type de violence-là. Mais à nouveau, c'est quelque chose qui sont constatés par les services de police et de gendarmerie.
Pardonnez-moi de vous interrompre, mais ce que vous voulez dire par là, c'est que, bien évidemment, je suppose que un tas de violences gratuites ne font pas l'objet de plaintes. En fait, les gens ne vont pas se plaindre à la police.
Exactement. On a une autre source très importante qui nous permet justement d'estimer ce nombre de personnes qui sont victimes de violences.
Oui.
Alors concernant les violences gratuites, cette source s'appelle l'enquête de victimation. On organise avec l'INSEE et le service statistique ministériel du ministère de l'Intérieur, on organise cette enquête de victimation chaque année, et ce qui nous permet d'estimer le nombre, notamment le nombre de personnes qui se déclarent victimes de violences.
Mmh.
Et là, pour ce qui concerne les violences dites gratuites, j'ai regardé, en préparant un petit peu l'émission, le nombre de personnes qui se déclarent victimes de violences hors ménage.
Oui.
Je me suis dit, tout ce qui était violence gratuite, on va regarder ce qui se passe hors du ménage. Et donc, on a cette enquête de victimation depuis 2007. Et donc, on peut faire une tendance entre 2006 et 2017 des violences hors ménage. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'on est sur des années, 2016 et 2017, les 2 dernières années, où c'est le nombre le plus faible de personnes qui se déclarent victimes de violences hors ménage. Donc, globalement, on est sur une tendance à la baisse de ce type de violence-là.
Pourtant, on a l'impression, pardonnez-moi, mais on a l'impression, ne serait-ce que quand on regarde, on évoquera dans le reste de cette émission, des violences gratuites qui ont mené jusqu'à la mort, pour rien, de jeunes. Mais on a un contexte social, en tout cas un ressenti des Français, d'un contexte social et économique de plus en plus tendu et qui correspondrait à ces violences gratuites. Est-ce que vous avez fait un parallèle dans vos études avec tout cela ?
Alors souvent, ce qu'on utilise comme mesure de la violence dans une société, c'est l'homicide, le taux d'homicide dans les pays. Donc c'est vraiment l'infraction qui nous permet de mesurer le niveau de violence d'une société. Mmh. Et on a pu faire, mais la recherche en criminologie a pu faire de nombreuses études où justement on a essayé de déterminer quels étaient les facteurs qui pouvaient être à l'origine, avoir une influence sur le taux d'homicide de certains pays par exemple. Mmh. Et effectivement, la pauvreté, l'inégalité sont deux facteurs qui impactent vraiment très fortement le taux d'homicide des pays. C'est-à-dire que plus un pays est pauvre, hein, plus il aura d'homicide. Et donc, on peut supposer que plus ce pays aura un niveau de violence élevé. Mmh. Donc, effectivement, le parallèle existe. Mais après, c'est aussi mon rôle d'essayer de faire parler ces chiffres-là et de vous dire que, aussi grâce à cette enquête de victimation,
oui.
Je me suis intéressé à l'idée de savoir si ces personnes-là se connaissaient. C'est les personnes qui se déclarent victimes de violences hors ménage, et voir la tendance aussi. Et donc, on constate que même quand les personnes ne se connaissent pas, on est aussi sur une tendance à la baisse, globalement, du nombre de personnes qui se déclarent victimes de violences hors ménage, avec un auteur et une victime qui ne se connaissent pas.
Ce qui voudrait dire quoi, au final ?
Alors, c'est pareil, c'est pour affiner un petit peu l'analyse qui consiste à dire on va essayer de se rapprocher au maximum de ce qu'est une violence gratuite oui. entre personnes qui ne se connaissent pas. Et donc je vais essayer de regarder finalement si on aurait pu penser qu'elle soit en augmentation, en affinant. Mm-hmm. Et en affinant un petit peu l'analyse, on se rend compte que c'est également à la baisse. Et on peut aller encore un petit peu plus loin. On peut aller un petit peu plus loin en regardant le niveau de violence, le niveau de gravité.
Oui.
Alors on demande aux personnes qu'on interroge hein, dans cette enquête, on demande notamment aux personnes qui se déclarent victimes de violences hors ménage, de nous donner le nombre de jours d'ITT mm-hmm. qu'a engendré la violence. Et donc moi j'ai regardé en moyenne chaque année si la moyenne d'ITT était en augmentation. Globalement, c'est assez en dents de scie, mais on constate une très légère augmentation du niveau de violence. Très légère. Et une baisse très importante du nombre de moyens d'ITT qui sont déclarés entre 2016 et 2017.
Alors là, bien évidemment, on parle d'homicide, puisque je lisais tout à l'heure une phrase qui m'a saisi, qu'en fait, on a constaté qu'il n'y a jamais eu aussi peu de tués en France oui. depuis le Moyen-Âge. Donc cette analyse m'a un peu fait bondir, si vous voulez, parce qu'on parle aujourd'hui de violences gratuites. Moi, je parle de toutes ces incivilités aussi, ces coups de poing. Bah, tout à l'heure, nous avions Nicolas qui prend un coup de poing pour le refus d'une cigarette, qui a 3 fractures. Lui va à la police. Mais je pense à toutes ces incivilités, toute cette haine déversée par exemple au volant, c'est aussi le sujet d'aujourd'hui. Moi, je suis en moto, par exemple, dans une grande ville qui est Paris. Je vous certifie que tous les jours, je vois une ou deux altercations de personnes qui sortent de leur voiture et qui se battent. Ça me semble être quelque chose de nouveau. Or, votre étude semble aller à l'encontre de ce que je dis.
Alors, il ne faut pas complètement les opposer. C'est-à-dire que, globalement, c'est pas parce que mon analyse montre qu'on est sur une tendance à la baisse que votre perception est fausse et que ce qui s'est passé notamment pour Nicolas et son témoignage est quelque chose qui n'arrive pas et ce assez fréquemment malheureusement. Mm-hmm. C'est quelque chose qui arrive trop fréquemment. Mais ce qu'on peut constater et ce dont vous parliez au tout début, c'est effectivement cette augmentation notamment du taux de plainte. L'augmentation des personnes qui, à la suite de ce type d'agression, que ce soit des menaces, des injures, ou alors ne serait-ce qu'une altercation même simple,
oui.
à la suite de ce type de phénomène, les gens vont de plus en plus déposer plainte.
Oui, mais c'est alors, pardonnez-moi encore de
oui,
vous... certains verrous, moi, me semblent avoir sauté, parce que on sent que les agresseurs se sentent de moins en moins empêchés qu'avant de vous mettre une baffe, un coup de poing, parce que vous refusez une cigarette. Et moi, je connais un nombre de jeunes, j'en connais 25, 30, qui ont déjà pris un coup de poing parce qu'ils avaient refusé une cigarette. Et ces jeunes-là, ils ne vont pas porter plainte. Et c'est une réalité qui n'a pas pu vous échapper dans vos études.
Ah, mais je peux vous en parler du taux de plainte. Il est effectivement assez faible pour ce type d'infraction. Le taux de plainte, est l'année dernière, il était seulement de 23%. Mmh. Donc c'est quelque chose d'assez faible. Et il augmente petit à petit, même s'il oscille d'année en année.
Aurélien Anglade, vous allez rester en ligne avec nous. On va continuer justement à parler, à évaluer justement les paramètres qui font que cette violence gratuite augmente aujourd'hui et que voilà, on ne peut que constater que des verrous ont sauté. Mais on va continuer à écouter vos analyses. Et je rappelle que vous êtes adjoint de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. On va pouvoir en parler avec Sébastien. Il se déplace principalement à vélo. Et justement, là, on a un parfait exemple de violence gratuite, en tout cas de victimes, ces cyclistes qui sont souvent victimes d'agressions et d'incivilités qu'ils rencontrent sur leur chemin.
Europe 1. Insultes, bousculades, bagarres, la violence gratuite à vélo, à pied, vous y avez été confronté, vous le vivez souvent, vous témoignez, 3921, on vous écoute et vous nous écrivez Twitter, hashtag Europe 1. Les Français seraient-ils de plus en plus agressifs? La violence gratuite sur la route, dans la rue, vous connaissez Olivier Delacroix, vous écoute sur Europe 1 au 3921.
Et nous sommes toujours en ligne avec Aurélien Langlade. Je rappelle que vous êtes chef adjoint de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Alors, au-delà de l'analyse que nous avons fait en première partie de cette émission, et dont nous avons tiré certains enseignements, on va aller un peu plus loin. Tout le monde ne porte pas plainte, vous l'avez dit.
Oui,
mais alors, comment peut-on lutter contre toutes ces incivilités, toute cette violence gratuite que l'on évoquait, qui sont souvent des violences, qui même, il n'y a pas de fracture, mais il y a un traumatisme psychologique quand on vous demande une cigarette et puis que vous prenez deux tartes, que vous êtes humilié, vous n'allez pas porter plainte. Et ça arrive quotidiennement, ce type de choses. Comment lutter contre ça, en fait? C'est un problème d'éducation, ça commence à l'école. Par où commencer?
Alors, je n'aurai pas forcément la réponse à cette question-là. Je vais essayer à nouveau de recadrer ça dans un contexte un petit peu plus quantitatif. C'est vrai que, pour le coup, pour ce qui concerne les injures et les menaces, c'est quelque chose qu'on peut mesurer aussi, ouais, notamment grâce à cette enquête de victimation. Et effectivement, le nombre d'injures augmente depuis 2013. Et ça concerne surtout un chiffre assez impressionnant de 5 334 000 personnes en 2017. Donc c'est quelque chose qui est assez important.
Et ça correspond à quoi, ça,
à votre avis, française.
Et ça correspond à quoi?
Ça correspond peut-être à un contexte un petit peu plus, effectivement, peut-être un petit peu plus tendu, oui, dans des situations un petit peu plus stressantes, comme, oui, la conduite ou dans des milieux un petit peu plus urbains, où effectivement, mm-hmm, les choses vont plus vite et, mm-hmm, c'est peut-être un petit peu plus stressant. Mm-hmm. Mais ce qui est surtout inquiétant, c'est le taux de plainte à la suite de ces injures, par exemple, oui, qui est seulement de 2%. Donc vous me demandiez comment est-ce qu'on peut faire pour potentiellement lutter plus contre ce type de phénomène. Il faudrait inciter les gens à aller déposer plainte un maximum.
En fait,
on constate depuis deux ans maintenant une libération de la parole des victimes, notamment des victimes de violences sexuelles suite à l'affaire Weinstein, oui, au mouvement, oui, MeToo. Mm-hmm. On constate aussi un abaissement du seuil d'acceptabilité des victimes. Avant, on acceptait ce type de comportement. Il faut faire en sorte que ces comportements ne soient plus acceptés dans cette société, mmh, et aller au maximum dénoncer ces comportements-là. Et en fait, c'est en dénonçant un maximum, finalement, qu'il y aura une politique plus dissuasive, notamment à l'égard des auteurs de ces...
J'ai envie de vous dire que, au même titre qu'il faudrait inciter les gens à comprendre pourquoi il faut qu'ils aillent voter, hein, parce que je vous écoutais, et pour moi, c'est du même ressort. Finalement, c'est une question de confiance dans la justice, confiance dans ceux qui nous, hein, voilà, qui nous gouvernent, et ça, le juge en fait fait partie, hein, de cet appareil qui fait qu'il y a un manque de confiance dans les institutions. Donc, au final, je pense que toutes ces personnes qui sont victimes de violences gratuites comme ça, eh bien, elles se disent, je vais porter plainte, et puis ça va servir à rien. Or, aujourd'hui, il faut savoir que c'est suivi. On va bien évidemment rester en ligne avec vous, Aurélien Langlade, et on va en parler avec Sébastien. Bonjour Sébastien, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Sébastien?
J'ai 28 ans et je vous appelle de Paris.
Alors, vous êtes un cycliste, hein, j'ai bien compris.
C'est ça.
La majorité de vos déplacements donc, se font à vélo. Le quotidien sur la route n'est pas toujours facile à Paris. Hein. Bon, on s'adresse entre Parisiens. Mais ça concerne aussi Marseille, Toulouse, toutes les grandes villes. Aujourd'hui, le vélo est de plus en plus présent et tant mieux. La dernière agression que vous avez subie date seulement d'il y a quelques jours. Racontez-moi.
Oui, c'était donc il y a quelques jours. En fait, du coup, moi, je prends beaucoup le vélo pour aller au travail, principalement.
Ouais.
Et donc, en fait, comme habituellement, je me retrouve dans la circulation générale avec d'autres automobilistes et des motards, etc. Donc je me retrouve dans un sas vélo, donc c'est juste avant les feux rouges. Il y a un espace devant à l'avant pour pouvoir justement que les vélos puissent se mettre ici pour pouvoir démarrer en sécurité
les
automobilistes pour qu'ils les voient, pour que les automobilistes voient les vélos et du coup pour qu'il n'y ait pas de mise en danger. Voilà.
Mm-hmm.
Et donc je me retrouve sur ce sas vélo, il y a une personne en moto avec une très grosse moto. Donc du coup je lui fais remarquer normalement, on va dire sans agressivité a priori de ma part, qu'il est sur le sas vélo et que du coup c'est un peu dangereux, etc. Et que je lui dis, du coup, y a une amende qui est prévue pour ça, attention, voilà. Je lui dis, justement, on a une espèce de côté d'éducation, enfin, pédagogique, on va dire.
Ouais.
Et en fait, ça a été tout de suite attrapé avec des insultes. Il m'a insulté à plusieurs reprises, en me demandant, est-ce que t'es de la police, qu'est-ce que tu vas faire, etc. Et en fait, au moment où le feu est reparti au vert, l'altercation n'était pas finie, donc moi j'ai redémarré, en fait, en voulant un peu rebaisser la situation. Et en fait, la personne m'a coincé à redémarrer en moto, il m'a coincé contre le bord de la route pour m'empêcher d'avancer.
Oui.
Et elle m'a menacé physiquement, en fait, avec son casque, et donc du coup de me frapper avec son casque à la tête, etc. Donc j'étais obligé d'essayer de faire baisser la situation, mais du coup, là, c'était bon. Du coup, il s'est rien passé. Heureusement pour moi, il m'a pas frappé. C'est resté au stade de menace. C'était quand même assez impressionnant.
Oui, mais on parle de ça aujourd'hui.
Voilà.
On parle d'un très mauvais moment que vous avez vécu. C'est-à-dire, on parle d'une incivilité, mais finalement après, d'une demande de votre part d'éducation. Alors peut-être le mot est un peu pro, en tout cas de lui dire, t'es en moto, moi je suis en vélo et je vais démarrer doucement. Donc cet endroit où je suis, c'est pour les vélos parce que justement on démarre doucement. Et vous finissez coincé, menacé de prendre un coup de casque. Vous l'analysez comment ça en fait parce que pour le coup, je suis motard. Je ne suis pas toujours copain avec les vélos parce qu'ils ne sont pas tous sympas comme vous, hein, je vous le dis. Mais là, dans cette situation-là, le comportement de ce garçon qui est sur la moto, vous l'analysez comment ?
C'est difficile à dire. Je ne peux pas dire ce qui se passe dans sa tête. Mais je pense qu'il y a un côté. Peut-être que c'est des évolutions du code de la route qui n'ont pas forcément déjà, d'une part, été très médiatisées. Donc peut-être c'est des gens qui ont passé le code de la route il y a longtemps, ils sont pas au courant.
Oui.
Et puis je pense qu'effectivement, ce que vous dites, c'est qu'on voit beaucoup, par exemple de vélos. Effectivement, il y a d'autres personnes en vélo qui font beaucoup, qui brûlent des feux, etc.
Beaucoup.
C'est vrai aussi.
Beaucoup.
Je sais pas, mais en tout cas, moi j'entends beaucoup de gens parler de ça, dire oui, mais les cyclistes.
Non, mais moi je peux vous le dire. Moi je peux vous le dire. Mais à côté de ça, alors je vais vous parler je le vois trois fois, quatre fois par jour, mais je vous parle de trois ou quatre vélos qui grillent les feux, mais pour 300 que je vois dans la journée, qui respectent totalement et qui sont sur leur piste cyclable. Donc bien évidemment, les cyclistes sont généralement des gens qui respectent. Et puis en plus, voilà, le mouvement là.
Comme toujours, je pense que c'est un côté un biais de confirmation. En fait, on voit que ceux qui ne respectent pas les règles. Et je pense que c'est pareil, moi. En tant que cycliste, qui sont souvent confrontés aussi aux automobilistes,
évidemment,
je vais me rappeler aussi de ceux qui ne respectent pas les règles et qui me mettent en danger, et pas de 90% qui vont
poser aucun
problème et qui vont se comporter normalement. Et je pense que c'est un peu ça aussi, et qu'aujourd'hui, il y a des caisses de résonance, justement, quand ça ne va pas, justement, vous m'avez contacté parce que j'ai tweeté en disant j'ai été mis en danger. Je pense que c'est une caisse de résonance qu'on n'avait pas forcément avant et qui, du coup, intensifie un peu ce phénomène de. On a l'impression que. Tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend, c'est des gens qui font n'importe quoi.
Mmh. Mais comment vous les vivez, ces incivilités, vous, au quotidien vous en pensez quoi ?
J'essaie de me détacher, de prendre un peu du recul en disant que finalement, c'est une minorité des gens, en fait.
Vous êtes exaspéré ? Est-ce que vous êtes désabusé devant ? Parce que ça se répète tous les jours. Moi, je suis en moto. Donc on est collègues,
c'est
et je peux vous dire que tous les jours, Moi, j'affronte des incivilités, mais tous les deux kilomètres, quoi. C'est voilà. Donc c'est quelque chose. Moi, ça me préoccupe beaucoup. Je vais vous dire, c'est quelque chose, et on y reviendra ensuite avec Aurélien Langlade. Ça me préoccupe beaucoup parce que ça traduit. Je n'en ai plus rien à faire de l'autre, quoi. Je mets pas mon clignotant, je peux lui faire mal, on bline.
Oui, pardon. Du coup, j'ai envie de réagir parce que j'ai l'impression que sur la route, c'est un endroit extrêmement particulier.
Chacun pour soi.
C'est très individualiste. On est protégé par sa voiture, alors, ou par son casque si on est à moto, et puis peut-être aussi que ce motard, en fait, il n'a pas voulu que vous lui donniez une leçon parce que c'est compliqué aussi. C'est peut-être un ego qui prend un coup. Enfin, j'ai l'impression qu'on a une psychologie quand on est piéton et dès qu'on rentre dans une voiture, dès qu'on monte sur sa moto, c'est autre chose.
Mmh. Enfin, il a quand même voulu lui donner un coup de casque.
Oui, non, là, c'est très extrême.
Ah, on est d'accord.
On est très extrême.
Non, même si on veut percevoir un coup d'éducation, on n'est pas obligé de vouloir mettre un coup de casque.
Non, tout le monde n'est pas comme ça aussi quand on monte dans sa voiture.
Mais ça, en fait, quand vous prenez votre vélo tous les jours, donc du coup, vous êtes un peu sur la défensive ou vous roulez tranquille quand même certains jours
Maintenant, je fais très attention. En fait, je conduis de manière tout à fait, c'est très défensive en fait. J'ai l'impression de faire encore plus attention qu'avant à ce qui se passe autour de moi, à essayer de pas me mettre dans des situations où je vais pouvoir déclencher je ne sais quelle réaction l'avoir de quelqu'un. Alors c'est vrai qu'après du coup j'ai toujours un côté un peu où je vais essayer de faire de la pédagogie quand je vois quelqu'un sur un sas vélo ou quand je vois quelqu'un qui me double à 20 cm, je vais avoir envie d'aller juste interpeller la personne gentiment. En tout cas, j'espère que ça s'est perçu comme ça, mais peut-être que c'est peut-être perçu comme agression par ces personnes-là.
Moi, j'ai envie de vous dire un truc. Voilà. J'ai envie de vous dire un truc, Sébastien. Et voilà, les collègues policiers, les collègues, c'est pas mes collègues, mais en tout cas, c'est aux policiers de faire l'éducation de tout le monde. Hein, et surtout, moi, je dois dire un truc, c'est que dans toutes ces grandes villes où il y a des vélos, où il y a des motos, où il y a des voitures, c'est à la police de faire cette pédagogie. Cette incivilité.
Je suis pas d'accord avec vous parce que du coup, je pense que c'est à chacun de prendre sa responsabilité.
Bien sûr.
Quand j'ai prendre sa responsabilité, à chacun de faire les petits gestes qui font qu'on va vivre on va vivre en bonne entente.
Mais c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui.
100% sur la police, c'est un peu dommage.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on en parle aujourd'hui pour ça, justement que chacun prenne ses responsabilités. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'au bout d'un moment, il faut que dans ces sas, par exemple, ce sas où vous avez été agressé, si de temps en temps il y avait un policier. En tout cas parce que je les vois un peu partout, puis vous savez qu'on a des polices municipales qui faisaient un petit peu juste de l'éducation ou juste de l'information et qui faisaient respecter les uns et les autres, parce que moto et cycliste c'est un peu la guerre, donc du coup peut-être les choses iraient un peu mieux. Maintenant, on pourra continuer à en parler sur Twitter parce que le temps presse, Sébastien. Et je vous remercie pour votre témoignage cet après-midi sur Europe 1. Mille merci. Dans quelques instants, nous parlerons avec Karine, son fils Dorian. Alors, on passe tout à fait à autre chose. Est mort des suites de ses blessures en juillet dernier après avoir été roué de coups à la sortie d'une boîte de nuit.
Et le témoignage de Sophie, 59 ans, au 39-21. Je viens de subir une agression gratuite samedi dernier. Une côte cassée. Je déposais mon fils après le cinéma. J'ai été prise à partie dans ma voiture. Je ne comprends pas pourquoi j'ai été une cible. On m'a rien volé. J'ai l'impression d'avoir été un punching ball. Il a tapé pour faire mal.
Europe 1.
Vous partagez ce que vit Sébastien sur son vélo, ce qu'a vécu Sophie. On a envie de vous entendre également. 39-21. Sur Europe 1, on évoque aujourd'hui la violence gratuite. Vous y avez été confronté. Pourquoi tant de haine? Vous venez échanger avec Olivier Delacroix. Vous composez le 39-21.
Et nous accueillons maintenant Karine sur notre antenne. Bonjour Karine, merci d'être avec nous cet après-midi sur Europe 1.
Oui, bonjour Olivier.
Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Karine?
J'ai 52 ans et j'appelle de Rennes.
D'accord. Alors, vous avez vécu l'impensable. Le samedi 7 juillet 2018, votre fils Dorian a été battu à la sortie d'une boîte de nuit, battu à mort. C'était à Rennes, après une soirée entre copains, après une banale altercation. L'ami qui était avec lui a aussi été frappé. Lui a eu la chance de s'en sortir. Quand on vous a appelé et mis au courant de cette agression, comment on vous a expliqué ce qui s'était passé?
C'est d'abord ma fille, Morane, qui m'a prévenu en me disant Dorian a été agressé, maman c'est grave, va vite aux urgences. Moi je retrouve, je vais sur place où il y a eu l'accident, je retrouve où c'est pas ce qui s'est passé. Donc moi je suis partie directement aux urgences, j'ai appelé Morane et pour lui dire j'étais arrivée. Et elle m'a dit maman il y a du sang partout.
Votre fille Morane était donc Sur place, avec son frère?
Non. Dorian était sorti juste après son travail, après avoir fermé le Quai de Monde avec Kevin.
Oui.
La demi-finale, il avait bien travaillé. Ils sont dit, on va aller boire un verre à l'espace, du fait que c'est les mêmes propriétaires qu'ont les deux, qu'ont le bar et qu'ont la discothèque.
Oui.
On se connaît tous 15 ans. Il est sorti avec Kevin. Bon, bah, ça s'est passé avec une altercation verbale au bar, parce que lui, il était avec la barmaid qu'il connaissait.
Je ne vous entends pas très bien, en fait. Est-ce que vous pouvez... vous déplacer, en tout cas, parce que vous êtes dans un endroit qui capte pas très bien.
Ah, bah ouais.
Voilà,
suis...
là, super.
Là, c'est mieux.
Ah bah
voilà.
Ouais, bougez plus.
Du coup, ils ont bu un verre à la discothèque. Hein.
Ouais.
Il y a eu une altercation verbale, parce que Dorian discutait avec la barmaid, puisqu'ils se connaissaient, hein, du fait qu'ils sont du même milieu.
Ouais.
Et les quatre jeunes sont arrivés en agressant verbalement Dorian, lui disant qu'il n'avait pas à parler à la barmaid, que c'était sa petite copine. Bon, c'est de là que c'est parti. Ils ont été sortis par les videurs. Dorian est resté avec Kevin voir un Perrier parce que la boîte, elle est fermée.
Ouais.
Et les videurs lui ont dit, bah, écoute, ça t'en fait à 20 minutes, vous sortirez par l'arrière, comme ça, vous serez tranquille.
D'accord.
Et en sortant à l'arrière, les quatre jeunes étaient là.
Mmh.
On ne sait pas s'ils attendaient Dorian ou s'ils attendaient la petite amie d'un des jeunes qui travaille au bar.
Mmh.
Le fait est qu'ils ont pris le temps d'allumer une cigarette, qu'ils se sont fait agresser tous les deux. Kevin a réussi à... échapper à leur coup en rentrant directement par la porte qui est en train de se refermer de sortie des employés.
Ouais.
Le temps qu'ils préviennent
les videurs
et qui retournent dehors, Dorian n'était plus là. Et en faisant le tour, c'est les éboueurs qui étaient arrivés sur place et qui étaient en train de réanimer Dorian qui était en arrêt cardiaque.
Bon. Votre fils a été battu à mort par quatre jeunes gens. Quel est le profil de ces jeunes gens? Parce que bon, vous nous avez expliqué pourquoi. Donc on parle là, encore une fois, de violence totalement gratuite. Le profil de ces quatre jeunes, c'est quoi?
Alors, ils ne sont pas quatre. Ils ont découvert, au fil de l'enquête, qu'ils étaient six. Quatre en un premier lieu. Et deux autres qui sont venus, une fois que les quatre sont partis, je pense, on n'a pas encore la suite,
hein. Ouais.
Qui sont venus agresser Dorian quand il était à terre. Donc, les quatre premiers, ce sont des jeunes de 22 à 28 ans. Il y a des gens de famille normaux. Hein. Les parents sont commerçants. Il n'y en a qu'un seul sur les quatre qui a déjà des antécédents de violence. Hein. Les trois autres, non.
Bon, mais globalement, je vous posais cette question parce que...
Des familles tout à fait normaux.
Et des gens qui n'avaient jamais eu aucun problème.
Sauf un. Des antécédents de violence, oui, tout à fait.
Alors, ils ont été tous incarcérés, les quatre.
Oui.
Le 10 juillet, soit trois jours après l'altercation.
Ça, c'est les quatre, et au mois de septembre, les deux autres.
D'accord. Ça vous a soulagé? Que vous a dit la police, en fait? Comment elle vous a expliqué comment tout ça allait se passer ensuite?
Non, pas vraiment. Il faut qu'ils continuent l'enquête pour savoir qui a fait quoi et comment ça s'est passé.
Oui.
Mais on n'a rien plus que ça. On en saura plus, je pense, quand les auditions seront finies, mm-hmm. quand la reconstitution sera finie.
Mais dans un premier temps,
on n'en sait pas plus que ça.
Dans un premier temps, Karine, est-ce que vous avez une première version des agresseurs présumés de votre fils? Que racontent-ils?
Quand on les écoute, ils n'ont pas tapé Dorian, ils n'ont tapé que Kevin. Donc on n'a vraiment aucune... On n'a rien de plus. Rien de plus.
Votre
quand
fils...
Ils sont enfermés en prison, c'est bien, mais ça ne rendra pas mon fils. Maintenant, il faut que la justice applique une justice juste et puis longue pour que ça n'incite pas les jeunes à continuer à agresser des personnes gratuitement comme ça. Mmh.
Ça vous inspire quoi, cette violence parce que votre fils n'est pas un cas isolé. Hein.
On a
cité des prénoms en début de cette émission. Ça vous inspire quoi, cette violence-là, qui va jusqu'à la mort, un soir, entre des jeunes qui ont... peut-être, mais là, on a la mort au milieu. Vous pensez à quoi quand vous pensez à ça, hein?
Que les jeunes ont de moins en moins de respect, à se demander s'ils ne veulent pas faire un peu comme les gangs aux États-Unis. Hein, tant qu'on n'a pas tué quelqu'un, on n'est pas un caïd, on n'est pas reconnu.
Oui.
Et quand on vise que la tête au niveau des coups, c'est vraiment ce qu'on va faire. C'est pas juste pour casser la gueule à quelqu'un, et pas à plusieurs dessus. Quoi.
Pour conclure cette émission, nous serons toujours avec vous. Vous Vous nous expliquerez justement où on en est au niveau de l'instruction, parce que oui. Cette instruction, elle vous a amené plusieurs éléments, et on continuera justement à en parler avec Aurélien Langlade pour essayer de comprendre justement le sens de ce que vous venez de dire. Quoi. Quand on met des coups dans la tête, on sait que ça peut mener beaucoup plus loin. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants, Karine.
Europe 1. Quand les intimidations, les insultes, les agressions font partie désormais du quotidien, vous avez été victime de violences gratuites. On vous attend au 3921. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous discutons cet après-midi de la violence gratuite. Pourquoi tant de haine ?
Et nous sommes toujours avec Karine au téléphone, dont le fils Dorian a été battu à mort à la sortie d'une boîte de nuit en 2017 et donc a perdu la vie. Vous venez tout juste, Karine, de reprendre le travail. Comment se sont déroulés ces derniers mois pour vous ? Comment faites-vous pour faire face à la douleur, au deuil ? Parce que cette mort, bien évidemment, on parle de violence gratuite, elle est, la mort est la mort, mais elle est particulièrement, sans doute difficilement acceptable.
Oui, c'est inacceptable parce qu'on peut s'attendre et se préparer quand on a quelqu'un qui est malade.
Oui.
Un accident de la route, on dit voilà, c'est c'est pas de chance, c'est accidentel, on a du mal. Mais se dire qu'il a été agressé et qu'on, quelque part, on a voulu, entre guillemets, donner la mort, c'est encore pire. Et puis d'être à plusieurs comme ça, c'est vraiment dès l'âge. Quoi. Depuis le mois de juillet, donc l'année dernière, quand ça s'est passé, le premier mois, même maintenant, il y a des fois, on ne s'en rend pas trop compte, à part l'absence et le manque de parler. Donc j'ai travaillé moi jusqu'à Noël et puis plus cette Noël arrivait et plus je me sentais incapable de me dire c'est pas possible, on va pas passer le premier Noël sans un premier Noël sans Dorian. C'est là que ça a été dur et que j'ai craqué et j'ai repris le travail.
Alors remettez-vous dans la même position où vous étiez tout à l'heure où je vous entendais mieux.
Bon.
Voilà, super. Votre deuil, est-ce qu'il est plus difficile compte tenu des circonstances justement de la mort de votre fils, mais surtout du manque d'informations qui l'entourent, parce que comme d'habitude, on est dans version des agresseurs, des versions qui diffèrent, qui changent, et puis vous avez appris il y a quelques jours en plus que l'un des agresseurs avait été remis en liberté, donc comment vous vivez tout ça?
Mal, parce que pour moi, le deuil n'est pas fait. Du fait qu'on a quitté Dorian à l'hôpital, qui était toujours sous respiration artificielle pour maintenir, pas en vie, hein, mais pour le maintenir comme il était jusqu'à ce qu'il prélève ses organes, parce que Dorian voulait faire un don d'organes. Donc on n'a pas l'impression, enfin moi, j'ai pas l'impression d'avoir quitté quelqu'un de décédé. Et j'arrive pas à m'y faire que du jour au lendemain, pour rien, il ne soit plus là et qu'il soit parti.
Alors, vous témoignez cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Pour cela, je vous remercie d'ailleurs. Nous vous remercions. Mais que souhaitez-vous faire passer comme message, justement, aujourd'hui, à travers votre témoignage sur notre antenne, vis-à-vis de cette jeunesse qui peut-être ne réalise pas qu'à travers une altercation bénigne, peut provoquer un drame comme ce qui vous est arrivé. Quel message vous vouliez faire passer ?
Alors, le message qu'on veut faire passer, c'est que depuis le décès de Dorian, on veut se battre pour qu'il y ait plus de sécurité, d'équipes de policiers à faire des rondes, de vidéos sur surveillance, avec plus de personnes derrière à les visionner, surtout dans les endroits qui sont très sensibles, où ça se passe souvent. On a rencontré Madame la maire, Madame Lapéré depuis par rapport à ça, qui est tout à fait d'accord, mais on ne lui accorde pas assez d'enveloppe pour avoir tous ces moyens-là. Il faudrait qu'il y ait l'autorisation aussi, que les boîtes de nuit puissent avoir des caméras de surveillance à 360 degrés et pas une caméra fixe sur la porte, sinon ils auraient pu voir ce qui se passait quand Dorian a été agressé.
En tout cas, on a compris qu'il fallait plus de surveillance. Mais bon.
Pas pour fliquer nos jeunes, hein, c'est juste pour savoir qui a fait quoi et qu'il n'y ait plus de discussion en disant on n'a rien fait.
En tout cas, il faut surtout aussi rappeler à ces jeunes que pour une cigarette, pour on parle à une fille pour en tout cas qu'une bagarre elle peut porter beaucoup trop loin. C'est la fin de cette émission, merci à Karine, merci à vous d'avoir témoigné aujourd'hui sur l'antenne d'Europe 1, merci aussi à Nicolas, à Sébastien, à Aurélien Langlade pour ses explications. Il faut sortir voilà, de ce cliché que les victimes sont là au mauvais moment, au mauvais endroit, parce que finalement nous sommes dans une société où plus rien, ou pour rien, certains perdent la vie, et que finalement c'est notre affaire à tous d'en parler, de se canaliser et de s'empêcher, et voilà, d'arrêter de... il faut refuser cette agressivité et s'éduquer les uns les autres, éduquer nos enfants surtout à être moins violents physiquement comme verbalement, et je vous jure que les choses s'arrangeront, mais j'ai l'impression de prêcher une paroisse qui pense qu'elle est convertie, mais voilà, chacun doit, au moment où on s'écoute, voir quel est notre comportement au volant, et puis revenir un petit peu aux fondamentaux et être un peu plus gentil.
Et vous continuez d'en parler sur Facebook, bien sûr, sur la page de l'émission, sur le Facebook d'Europe 1.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble de ces personnes qui ont fait le choix de travailler en ville pour habiter à la campagne. Alors, est-ce réellement gagnant ? On en parle dès demain sur Europe 1 à partir de 15h.